Berlin.
It's Morning Edition from NPR News.
Man City, San Pieterhausen.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, comme on aime le faire souvent, ici nous allons essayer de voir si l'herbe est plus verte chez les autres ou si Omicron sème la même confusion qu'à contact, entreprise, école, même variant. Même punition, nous irons en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Chine. Le bruit du monde ce soir est en Colombie avec des étudiants qui, depuis le Covid, sont plus de 20% à avoir abandonné leurs études. L'aide du gouvernement désormais disponible, vous l'entendrez, ne résout pas tous les problèmes. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Ogeni a trouvé des congés menstruels désormais réguliers en Espagne. La prohibition vue d'Afghanistan et un tatouage très visible à la télévision néo-zélandaise. 18h50, le monde selon Joe Biden et Liz Cheney, à quelques jours de l'anniversaire du 6 janvier qui vient et qui devient la seule opposante républicaine à Trump. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four. En 2022, on vote au Brésil, aux États-Unis, en Inde, en Hongrie. Bref, il n'y a pas que la France qui va aux urnes et loin s'en faut. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
C'est donc l'un de nos exercices favoris dans Un jour dans le monde. Il permet de relativiser parfois ce qui se passe chez nous, de nous souvenir que nous ne sommes pas les seuls à composer avec Omicron. Le plus souvent, je le disais, c'est même variant, même punition. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble en traversant une partie de l'Europe et même au-delà. En commençant, tiens, par l'Espagne. Et bonsoir Mathieu de Taillac.
Bonsoir Fabienne.
Mathieu, une fois n'est pas coutume, la vague Omicron est arrivée un peu après son déferlement en France, chez nous. Donc d'abord, vous en êtes où ? Que disent les principaux indicateurs en Espagne ?
Alors effectivement, la vague actuelle est arrivée un peu plus tard qu'en France, disons une quinzaine de jours après. Donc les Espagnols ont osé croire un temps qu'ils allaient passer entre les gouttes, que leur très bon taux de vaccination, c'est vrai, allait les épargner. Et finalement non, les courbes sont montées, elles sont montées plus tard, mais elles sont montées quand même. Alors on est aujourd'hui à 1086 cas positifs pour 100 000 habitants au cours des 7 derniers jours. C'est un peu moins qu'en France, mais c'est quand même du jamais vu. On a des pics à un peu plus de 100 000 cas par jour. Les hôpitaux, pour le moment, tiennent le choc. Un peu moins de 9% des lits sont occupés par des cas de Covid et un peu plus de 19% dans l'équivalent des services de réanimation. Cette fois-ci, ce sont plutôt les centres publics de santé, donc le premier rempart, qui sont débordés par l'avalanche des cas positifs.
Alors Mathieu, nous, ici, on parle beaucoup de rentrée des classes. Vous avez un tout petit répit puisqu'en Espagne, on fête les rois, donc avant de retourner à l'école, ce sera le 10 janvier pour la rentrée. Mais est-ce qu'on sait déjà à quoi ça va ressembler ?
Alors effectivement, les Espagnols sont encore en période de fête. Hein. Il y a bien des enfants qui reçoivent des cadeaux à Noël. Mais la fête traditionnelle des plus petits, c'est bien Reyes, l'épiphanie, avec les défilés des rois mages sur leurs chars dans toutes les villes. Alors certaines ont annulé, d'autres ont aménagé ces coutumes. Mais et quoi qu'il en soit, la rentrée en principe est maintenue pour le 10 janvier, donc lundi prochain. Mm-hmm. Demain, il y a une réunion qui est prévue entre la ministre espagnole de l'éducation et les responsables régionaux pour confirmer cette date et tenter d'unifier un peu les protocoles entre les régions. Le gouvernement central propose une rentrée classique en présentiel à tous les niveaux, de la maternelle à la fac. Il y a trois régions qui ont des objections, Madrid, l'Andalousie et Murcie. Elles envisagent des modalités en semi-présentiel selon les situations locales et les possibles clusters.
Alors voilà pour les petits, maintenant pour les grands, est-ce qu'il y a un recours obligatoire au télétravail comme on vient de le mettre en place en France par exemple ?
Non, pas du tout. Aucune obligation. Pour tout vous dire, l'Espagne fait plutôt figure de mauvais élèves en matière de télétravail. La proportion d'actifs espagnols qui travaillaient à distance au moins la moitié de leur semaine était au troisième trimestre 2021 de 8% et elle est en chute libre depuis la mi-2020. Alors ça n'empêche pas, bien au contraire, les entreprises d'être très inquiètes des effets de la vague Omicron sur leurs effectifs. Les organisations patronales, l'équivalent du MEDEF, n'ont pas encore de chiffres très précis, mais leurs représentants affirment que les absences pour cause de cas positifs à Omicron ou de cas contacts explosent. Hasard ou coïncidence, l'Espagne a décidé, un peu avant la France, de faire passer le délai d'isolement de 10 à 7 jours en cas de Covid, disons, asymptomatique ou léger.
Et comme nous, effectivement. Question rapide, tiens, pour voir, on est masqué partout chez vous à nouveau ou pas, Mathieu ?
Oui, depuis le 24 décembre dernier, depuis la veille de Noël, masque obligatoire à l'extérieur, quasiment partout, sauf les parcs naturels en gros. Les scientifiques trouvent qu'il n'y a aucune raison objective d'imposer cela, d'autant que le masque était déjà obligatoire à l'extérieur quand une distance interpersonnelle d'1,50 m ne pouvait pas être garantie. Mais bon, c'est comme ça, c'est à peu près la seule mesure nationale qui est prise le gouvernement central depuis l'arrivée du variant Omicron. Pour le reste, ça dépend de chaque communauté autonome, les régions espagnoles.
Et oui, parce que c'est vrai que, et ça c'est bien votre spécificité, il y a des différences importantes d'une région à l'autre.
Oui, il y a 17 communautés autonomes en Espagne. Elles sont compétentes en matière de santé publique. Et depuis la fin de l'état d'alarme qui avait centralisé tout ça de manière provisoire, eh bien, les stratégies sont à nouveau régionales et parfois très différentes. Il y a des régions qui n'ajoutent rien aux mesures prises au niveau national, comme Madrid, et d'autres régions qui, au contraire, prennent toute une salve de mesures complémentaires, des couvre-feux, des jauges, un pass sanitaire comme en France, c'est pas partout, mais ça existe par exemple en Catalogne ou dans le Pays basque espagnol.
Une toute dernière question, Mathieu, pour la route. Est-ce que vous parlez déjà d'une quatrième dose ou c'est pas du tout dans les tuyaux?
On en est loin encore en Espagne. Hein. Là aussi, chaque région suit son rythme. Mais pour le moment, les régions les plus avancées dispensent la troisième dose au quinquagénaire ou au mieux au quadragénaire. Donc, en Espagne, on ne choisit pas son rendez-vous quand on veut. On suit la vaccination par tranche d'âge, comme pour les deux premières doses. Donc si vous êtes insolemment jeune, comme vous, Fabienne, ou comme votre interlocuteur, eh bien, le plus probable en Espagne, c'est que vous deviez encore patienter un peu.
Eh bien, merci beaucoup Mathieu, merci vraiment à vous. Alors on était dans un pays un petit peu en retard, si on peut dire, par rapport à nous dans les incidences, tant mieux d'ailleurs pour eux. Voici celui qui est toujours un peu en avance et qui nous sert de point de repère, et c'est le Royaume-Uni. Bonsoir Laure Van Ruynbeek.
Bonsoir Fabienne.
On dit que, on a dit effectivement que vous aviez un taux d'incidence qui était extrêmement haut, donc dites-nous aussi quel est l'état de vos hôpitaux. On sait que là aussi vous êtes plus loin que nous, on va le dire.
Les contaminations atteignent des records au Royaume-Uni. Samedi dernier, on a relevé plus de 160 000 cas. Et deux semaines avant, la barre des 100 000 cas avait été dépassée. Donc pour vous dire un petit peu que les contaminations n'ont cessé de grimper depuis, même si les tout derniers chiffres ont l'air encourageants. Les hôpitaux sont sous pression. Boris Johnson l'a rappelé tout à l'heure lors d'une visite dans un centre de vaccination. Et ils vont continuer à l'être pour plusieurs semaines, voire davantage, a-t-il dit. La semaine dernière, le nombre d'hospitalisations était proche de 12 000, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis mars dernier. Et le Service national de santé a mis par précaution a mis en place des structures temporaires comme durant la première vague. Et en Angleterre, Londres a été touchée la première par le variant, mais la situation semble ici se stabiliser. Et donc les yeux désormais sont tournés vers les autres régions où dans certaines villes, les hôpitaux ont déjà du mal à tenir. Et Boris Johnson l'a rappelé, la majorité des personnes en réanimation ne sont pas vaccinées. 90% d'entre elles n'ont pas reçu leur dose de rappel. Et il a également déclaré que Omicron est moins virulent que les autres variants, Delta et Alpha, et que l'hospitalisation dure moins longtemps.
Et alors, est-ce que vous avez le sentiment, Laure, que la Grande-Bretagne arrive à gérer cette avalanche de cas positifs ?
Alors, il y fait face difficilement, surtout pour les travailleurs dits essentiels, en particulier dans les hôpitaux. À Noël, près de 25 000 soignants étaient absents car placés à l'isolement après avoir contracté le virus. D'autres secteurs sont concernés, comme les pompiers, les enseignants. Dans les transports également, il y a eu des pénuries de métro, des Eurostars, des trains ont été annulés. Et le gouvernement a décidé de réduire de 10 à 6, à 7 jours la période d'isolement, à condition que l'on soit testé négatif à la fin. Tout à l'heure, un journaliste lui a demandé s'il envisageait de réduire davantage comme cela se fait ailleurs. Mmh. Et Boris Johnson a répondu que non, car la personne risque d'être encore contagieuse et peut contaminer au moins 3 personnes sur son lieu de travail. Et puis, il faut dire qu'il y a eu tellement de cas positifs ces dernières semaines qu'il y a une pénurie de tests antigéniques que l'on fait chez soi, alors, les autotests.
Alors justement, dans ce contexte, comment on fait avec les enfants qui reprennent l'école chez vous? Est-ce que le protocole scolaire est clair pour tout le monde?
Alors la rentrée des classes en Angleterre, c'est demain. Et il y a déjà une polémique sur le retour du masque obligatoire pour les écoles secondaires. La nouvelle a été très mal accueillie chez les conservateurs qui sont par principe opposés aux restrictions et aux autres mesures de précaution. Pour eux, elles n'ont pas de sens au moment où le nombre de contaminations semble enfin baisser. Et en plus, ils considèrent le port du masque comme participant à la mauvaise santé mentale de l'enfant. Boris Johnson se veut rassurant. Il a répondu qu'il était guidé par la science, que certes, personne n'aime l'idée de faire porter un masque à des enfants, mais cela cessera le jour où il aura le feu vert des scientifiques. Et par ailleurs, 7000 purificateurs d'air seront mis à disposition dans les classes qui n'ont pas de fenêtres. Mmh. Et comme je disais tout à l'heure, le gros problème est surtout lié au nombre d'enseignants absents qui ont été testés positifs. Le ministre de l'Éducation a envoyé une lettre aux écoles pour leur demander de fusionner les classes et de faire preuve de flexibilité en permettant par exemple une partie des cours à la maison.
Alors, même question qu'à Mathieu de Taillac tout à l'heure, est-ce qu'on est masqué partout chez vous désormais à nouveau?
Non, et je rappelle qu'en Angleterre, on n'a jamais été contraint de porter le masque dans la rue, mais seulement dans les endroits clos et confinés, comme les transports, les commerces, pour se déplacer dans les restaurants. Le 19 juillet, le jour du Freedom Day, et le jour de la liberté, le masque avait été complètement retiré, mais il a été réintroduit depuis, uniquement dans les endroits clos avec Omicron. Et a priori, le Premier ministre ne peut pas aller plus loin, car sa majorité conservatrice est absolument contre les restrictions. Le Boris Johnson ne cesse de répéter par ailleurs que grâce à la vaccination, le Royaume-Uni se porte mieux que ses voisins européens et que le pays est l'un des moins restrictifs d'Europe.
Même question à nouveau, on la posera d'ailleurs tout à l'heure à l'Allemagne aussi. Est-ce que vous parlez déjà d'une quatrième dose ou c'est pas du tout d'actualité?
Non, pas encore. Le gouvernement se focalise déjà sur la troisième dose. Il a presque atteint l'objectif qu'il s'était fixé avant les fêtes puisque les trois quarts de la population adulte ont reçu leur dose de rappel.
Alors la dernière question pour la route, Laure. Omicron est peut-être le dernier des variants, c'est ce que nous a dit ici le ministre de la Santé. Est-ce qu'on se risque à dire des phrases aussi définitives chez vous?
Alors ici, les politiques sont plus prudents peut-être. Preuve en est que Boris Johnson a dit tout à l'heure que c'était une folie de penser que la pandémie était finie. Mais malgré tout, il est positif. Il considère que le pays est en bien meilleure position que l'année dernière en janvier. Et le ministre de la Santé l'a écrit dans le Daily Mail il y a quelques jours. Désormais, il faut apprendre à vivre avec le virus.
Laure Van Ruynbeeck en direct avec nous depuis Londres. Merci beaucoup. Allons donc en Allemagne. Les premiers à avoir été alertés par une augmentation des cas, mais qu'on entend beaucoup moins de panique, en tout cas de l'autre côté du Rhin apparemment. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Alors qu'est-ce qu'il dit vous, votre taux d'incidence et l'état de vos hôpitaux aussi?
Ça va un peu mieux. Hein. Mmh. Le taux d'hospitalisation a baissé de moitié, de 6 à 3 en un mois. 3 étant tout de même un taux à partir duquel le système commence à se tendre, disons. Mais on est sorti du plus fort niveau atteint de la pandémie ici. Ce pic à plus de 70 000 infections par jour fin novembre, début décembre, pour retomber à 18 500 cas enregistrés ces dernières 24 heures. C'est dans le détail un peu plus, 4 000 de plus que lundi dernier. En résumé, ça a baissé de moitié entre début décembre et Noël. Et depuis 5 jours, on constate que le taux d'incidence sur une semaine remonte d'environ 200 à aujourd'hui 232. Alors peut-être on est en train de connaître une hausse bien plus forte en réalité, puisque les spécialistes font remarquer qu'on a ici moins testé, moins vacciné aussi en cette fin d'année. Donc le chiffre est peut-être moins précis. Il faudrait attendre lundi prochain, dit-on, pour avoir des valeurs plus fiables et donc une plus forte tendance,
mais
plus significative.
Voilà, mais je vous écoute, on se dit que ce serait logique que l'incidence augmente fortement en fait.
Bah oui, parce qu'on s'attend, hein, comme partout, à ce que la vague Omicron touche beaucoup plus de monde dans les prochains jours, avec une majorité d'infections légères, certes, et tant mieux, mais cela pourrait, comme on l'évoque un peu partout, faire courir le risque d'une paralysie du système de santé et des autres infrastructures dites critiques, autrement dit essentielles, et donc déstabiliser l'organisation du pays, frapper plus fort encore qu'elle ne l'est déjà l'économie allemande, qui a bien du mal à se relever. C'est à cela que l'Allemagne se prépare, et les dirigeants des 16 Länder autour du nouveau chancelier, Olaf Scholz, vont faire le point vendredi et annoncer la prolongation d'un certain nombre de mesures et puis des nouvelles.
Alors, par exemple, on le sait déjà ou pas ?
Bon, on parle beaucoup ici de réduire le délai de quarantaine pour les personnes contacts comme pour les personnes malades. C'est un peu le même débat chez vous, je crois, de 14 jours à peut-être 7 ou 10 jours. Cela en fonction qu'on ait été vacciné ou non, qu'on ait déjà reçu une troisième dose ou pas, ou selon le métier qu'on exerce. Peut-être qu'il serait demandé en contrepartie un test PCR. C'est plus fiable qu'un antigénique pour sortir plus vite de la quarantaine, éviter les pénuries de personnel. C'est sur ces détails que les dirigeants débattent ces jours-ci avant de prendre une décision en fin de semaine.
Et alors, pour ce qui est des enfants, puisque c'est vraiment ce qui nous préoccupe, nous, ici, ils reprennent l'école, j'imagine, chez vous aussi. Est-ce que le protocole scolaire est clair pour tout le monde ?
Bon, on peut pas parler vraiment de protocole parce qu'ici c'est un petit peu la foire à tout. C'est le système fédéral allemand. Hein. Pour les questions d'éducation, en tout cas, il y a une liberté totale et une liberté à tel point, Fabienne, que dans les Länder, on laisse même aux écoles le soin de choisir ce qu'il convient hein, vraiment. Donc c'est un choix des enseignants aussi. Il y a une totale liberté. Il y a les parents d'élèves aussi qui participent à la décision. En gros, c'est une rentrée des classes qui se fait d'abord beaucoup en distanciel aujourd'hui et demain par exemple, et puis mercredi on va revenir progressivement à l'école. Il y a ce genre d'option qui a été choisi par certains lenders. Il y a surtout l'option de tester, parce que c'est quand même ce qui se fait beaucoup ici. Les enfants ont pris cette routine matinale le matin de se tester les soi-même hein, ils le font tous ensemble. Ici par exemple on parle de 3 tests par semaine à Berlin. C'est l'obligation pour cette semaine de rentrée, et puis on passera la semaine semaine d'après à 2 fois seulement par semaine. En cas de résultat positif, là aussi, il n'y a pas de protocole uniforme. Dans certaines régions, on va par exemple dire il faut surveiller de plus près la classe en question et on va tester les élèves 5 jours d'affilée, par exemple, ou bien on peut décider, dans des cas plus rares, des mesures de quarantaine pour cette classe en question. Mais c'est voilà, on veut pas, parce que ça revient à fermer les classes et c'est ce qu'on veut éviter.
Alors justement, c'est vrai que vous aviez beaucoup fermé, contrairement à nous d'ailleurs, désormais, est-ce qu'on essaye de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire ne pas fermer du tout?
Oui, c'est vraiment la politique, c'est vraiment la priorité qui a été fixée par la classe politique. Ils insistent vraiment sur la priorité à donner à l'enseignement en présentiel autant que possible. Après, il y a quand même un problème, c'est la vaccination, hein, on le sait bien, le faible taux de vaccination pour les 5 à 12 ans notamment, puisque ça ne fait que commencer. Je crois qu'on est à 250 000 enfants de cette tranche d'âge vaccinés. Ça marche un peu mieux en revanche pour la tranche d'après, pour les ados, on va dire. Là, on est sur plus de 50% de vacciner en Allemagne.
Ludovic, est-ce que vous avez augmenté le télétravail en échange, si je puis dire? On parle de combien de jours? Est-ce que vous jonglez autant? Est-ce que vous êtes dans l'organisation des entreprises au cas par cas contact, cas positif, etc.? Comment ça va chez vous?
Alors, on n'est pas sur un nombre de jours imposé comme en France. Cela va beaucoup plus loin. On est sur du 100%, sur une obligation. Si l'emploi que l'on exerce est un travail de bureau, par exemple, si rien ne justifie d'être présent physiquement pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Et avec la vague qu'on a connue, on est revenu depuis la fin novembre au télétravail obligatoire. On se rend compte dans les faits que c'est nettement moins pratiqué que lors des premières vagues. 30% selon des études toutes récentes. 30% même dans les emplois de service, dans les bureaux. Il y a une forme de lassitude à travailler chez soi, une envie de revenir à un fonctionnement normal autant que possible. Pour le salarié qui ne télétravaille pas, la transparence est de mise. Il faut communiquer son statut à son employeur. Il doit savoir si vous êtes vacciné ou non, ou bien guéri, remis du Covid. Et pour les non-vaccinés, ça implique un test presque tous les jours pour pénétrer sur le lieu de travail. Petit cadeau, prise en charge de l'employeur de 2 tests par semaine.
Vous avez 10 secondes pour me dire, même pas d'ailleurs, 5 secondes pour me dire si on parle 4e dose ou pas chez vous en Allemagne.
Oui, on l'évoque pas, on tambourine pas, hein, mais évidemment, vu que la campagne du booster marche bien ici, la 3e dose est ouverte à tous depuis octobre, ça veut dire déjà 3 mois, ça veut dire forcément, d'autant plus vite avec Omicron, qu'il faut réouvrir, dit-on, les vaccinodromes, ces grands centres de vaccination, pour se mettre effectivement à passer à la 4e dose.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu. Allez, dernier stop, nous allons en Chine, le pays qui semble aller tellement mieux que nous, si l'on s'en tient aux informations que nous avons, ou qui, le cas échéant, n'a pas peur des méthodes les plus radicales. Et bonsoir Sébastien Berriot.
Oui, bonsoir Fabienne.
Alors, première question pour vous d'abord, est-ce que ça existe Omicron en Chine ou pas du tout?
Alors oui, hein, ça existe. Le premier cas en Chine d'Omicron a été officialisé il y a 3 semaines. C'est un patient arrivant de l'étranger à l'aéroport de Tianjin, dans le nord du pays, qui a été testé positif. Les analyses ont confirmé qu'il s'agissait bien du nouveau variant. Il y a eu ensuite un 2e cas à Canton, cette fois toujours une personne arrivant de l'étranger. Et pour le moment, les autorités n'ont pas communiqué sur d'autres cas, ce qui est assez logique, hein, finalement, puisque la Chine est l'un des seuls pays au monde à maintenir ses frontières totalement fermées. Ça permet de stopper net l'entrée du nouveau variant. Si les quelques étrangers qui sont autorisés à venir en Chine sont contaminés, les cas sont vite repérés pendant la quarantaine. Alors c'est vrai que la Chine connaît depuis quelques semaines une reprise de l'épidémie. On a vu la ville de Xi'an reconfinée fin décembre avec ses 13 millions d'habitants. Mais donc les autorités n'ont pas annoncé de nouveaux cas liés à Omicron, que ce soit à Xi'an ou ailleurs.
Mais Sébastien, est-ce que vous avez des protocoles qui ressemblent aux nôtres de près ou de loin, par exemple dans les écoles?
Il y a des protocoles sanitaires dans les écoles, dans certaines entreprises aussi, mais rien à voir avec ce qu'on connaît en ce moment en Europe. Si on prend l'exemple de Pékin, dans les écoles, c'est masque obligatoire. Les parents doivent envoyer tous les matins sur le réseau social WeChat un rapport avec température de l'enfant et voyage éventuel des membres de la famille. Dans les entreprises privées, pas de télétravail, pas de masque obligatoire, rien n'est imposé au niveau national.
Ben ça plaisante pas, j'ai quand même une dernière question pour vous Sébastien. On est d'accord, la stratégie chinoise, c'est toujours la stratégie zéro Covid, quoi qu'il en soit.
Oui, toujours. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette politique du zéro Covid que les Chinois ont aujourd'hui un quotidien, j'allais dire, presque normal, si on enlève les contrôles des QR sanitaires à l'entrée des bâtiments publics. En revanche, dès qu'il y a un cas, un seul cas, là, c'est la manière forte. On a vu le confinement la semaine dernière en quelques minutes de tout un quartier touristique dans le Yunnan. Et puis, on parlait tout à l'heure des écoles. S'il y a un cas positif dans une classe, Tout le monde, enfants et enseignants, sont envoyés dans un hôtel de quarantaine. Les Chinois semblent plutôt bien accepter ces contraintes qui permettent de vivre la plupart du temps de manière normale.
Sébastien Berriot avec nous depuis Pékin. Merci beaucoup, merci vraiment à tous les quatre.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Et la suite ce soir, ça se passe en Colombie où l'une des conséquences du Covid, c'est que 23% des jeunes ont abandonné leurs études. Et la troupe qui vous accompagne jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie.
Nous partirons en Espagne, premier pays européen à mettre en place le congé menstruel pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses.
Le Monde selon Biden et Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, on parle déjà beaucoup du 6 janvier un an après et de Trump qui donnera une conférence de presse jeudi et qui est de plus en plus menacé, montré du doigt par la commission d'enquête.
Le Monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous. Alors figurez-vous un truc de fou, la France n'est pas la seule à voter en 2022. On ira donc en Inde, au Brésil, en Hongrie, avec à chaque fois un test d'ailleurs pour le populisme illibéral.
Je n'en crois rien. A tout de suite, tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe notamment par la Normandie, mais en espagnol dans le texte, les cannibales sur France Inter. Es el amor. Le bruit du monde ce soir est donc en Colombie à la rencontre des étudiants parce que l'éducation dans ce pays a toujours été liée à l'argent. Pendant les mois de protestations sociales cette année, les jeunes ont enfin réussi à faire comprendre leur précarité au gouvernement. Il a été mis en place une aide d'urgence, mais c'est toujours insuffisant car la pandémie a compliqué les choses. Beaucoup sont ceux qui ont dû abandonner leurs études faute de moyens financiers et le reste, c'est Najed Benrabah qui raconte.
En 2020, plus de 23% des étudiants colombiens ont abandonné leurs études, selon les derniers rapports de l'Association colombienne des universités. Pour tenter de limiter les dégâts, le gouvernement et les universités ont mis en place le principe de matricula cero, c'est-à-dire l'immatriculation zéro. En clair, les étudiants ne payent plus les frais d'inscription. Cela a permis à Santiago Correa Monsalvé de poursuivre ses études. À 28 ans, il fait une licence en sciences sociales à l'Université d'Antioquia.
Sans les aides des universités, je n'aurais pas pu continuer mes études. Sachant que je suis un étudiant privilégié, puisque je reçois un peu d'argent de mon père. Mais si j'utilise cet argent pour payer l'inscription de l'université, je n'en aurais plus pour les transports ou autre chose. Du coup, on est obligé de choisir ses priorités. Le système éducatif colombien n'est pas fait pour permettre seulement d'étudier. Il est fait de telle manière que c'est une fois qu'on a trouvé du travail qu'on peut étudier en même temps. C'est donc très compliqué.
Étudier en Colombie a toujours été complexe, car tout est lié à l'argent. Avec la pandémie, en plus de l'obstacle financier, les inégalités sociales se sont aggravées.
Un autre obstacle, c'est l'aggravation de la brèche sociale par la pandémie. L'enseignement virtuel supposait que tous les étudiants avaient accès au même matériel pour pouvoir étudier. Mais en fait, non, toutes les familles ne possèdent pas d'ordinateur ou un téléphone portable pour avoir accès à l'enseignement virtuel. Et parfois, même si elles ont un ordinateur, il y a deux étudiants qui vivent dans la même maison et qui ont besoin du matériel en même temps. Alors, comment on fait ?
Cela fait 4 ans que le nombre d'inscrits dans l'enseignement supérieur ne cesse de baisser. Au total, plus de 39 000 étudiants ont abandonné leurs études. Simon Hernandez Patiño confirme qu'il faut beaucoup de volonté et plusieurs travaux pour s'en sortir.
Au début, j'ai travaillé à un poste administratif à l'université, mais le salaire était trop bas. Il me permettait à peine de payer les transports et parfois un peu de nourriture. J'ai tenté de postuler à des bourses offertes par les institutions, les mairies, la nation. Mais à Medellín, tout est centralisé. C'est-à-dire que toutes les bourses sont attribuées à des étudiants qui ont étudié toute leur scolarité à Medellín, qui sont natifs de Medellín. Donc cela veut dire que pour les personnes qui viennent de régions éloignées ou des zones rurales, et qui sont celles qui ont le plus besoin d'aide, ces aides sont inaccessibles. Alors près de chez moi, j'ai travaillé dans deux bars et puis j'ai finalement créé une marque de café, profitant du fait que ma famille est productrice de café.
Selon des informations officielles du ministère de l'Éducation nationale et du Système national d'information de l'enseignement supérieur, dans le pays, seulement 42% des jeunes accèdent à l'enseignement supérieur et 18% obtiennent leur diplôme. Simon Hernandez Patiño vit à Armenia. Il explique que se rendre à Medellín pour étudier devient pour beaucoup un parcours du combattant.
Je sortais de chez moi pour étudier à 3h du matin et je rentrais vers 21h. Je devais prendre la route avec une moto qu'un de mes frères m'a prêtée alors qu'il n'avait pas tous les papiers en règle. Je l'utilisais jusqu'à San Antonio de Prado. Depuis San Antonio, je prenais ensuite un bus jusqu'à Estrella, puis le métro jusqu'à l'université. Forcément, avec tous ces transports, mes dépenses augmentaient et je n'ai jamais reçu d'aide de l'État. Il y a plus de chances de pouvoir suivre un parcours technologique, technique ou universitaire lorsqu'on vit en ville, et particulièrement dans les grandes villes comme Medellín, Bogota et Cali.
En 2020, le pays andin comptait près de 2,5 millions d'étudiants. Ce sont les chiffres les plus bas depuis 2015. En Colombie, 44% de la population, soit 4 personnes sur 10, n'ont pas les ressources financières nécessaires pour s'inscrire à l'université ou tout simplement ne sont pas en mesure d'entrer dans l'enseignement public. Après les études, l'autre défi sera l'intégration sur le marché du travail colombien, qui n'est pas facile non plus, car le taux de chômage oscille entre 14 et 20% selon les années.
Najet Benrabah pour le reportage. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Et nous sommes donc en Espagne, premier pays d'Europe à mettre en place les congés menstruels.
La décision date maintenant d'il y a quelques mois. C'est la ville catalane de Gérone qui a initié le mouvement. Au mois de juin dernier, le conseil municipal votait à l'unanimité la possibilité pour tous ses employés, femmes, trans et non-binaires, de prendre un congé en cas de règles douloureuses. Concrètement, jusqu'à 8 heures de congé par mois, à prendre sans justificatif médical. 8 heures que l'on doit tout de même rendre à la municipalité dans le trimestre qui suit. La télévision espagnole s'est évidemment emparée de cette initiative, comme on peut l'entendre. Depuis, d'autres administrations publiques ont adopté le même système en Catalogne, mais aussi dans l'est de l'Espagne, à Castellón de la Plana, par exemple. 1500 employés municipaux concernés, 8 heures de congé par mois, là aussi, ce qui peut paraître très peu comparé aux épisodes douloureux que traversent certaines femmes. Les syndicats demandaient d'ailleurs beaucoup plus, 2 jours de congés par mois, mais les mairies n'ont pas voulu, ni même certains fonctionnaires. Trop de congés menstruels, ce serait, disent-ils, une façon de stigmatiser les femmes et prendre le risque que les employeurs hésitent ensuite à embaucher des femmes ou à leur confier des postes importants. Le congé menstruel est encore très nouveau en Europe, mais il existe déjà ailleurs, en Asie notamment, où plusieurs pays l'ont déjà adopté. Au Japon, ça existe depuis 1947, ça existe aussi en Corée, en Indonésie, en Corée du Sud, bien sûr, en Indonésie ou à Taïwan, mais peu de femmes l'utilisent vraiment, de peur là aussi d'être stigmatisées.
Quand Kaboul prend des airs de Chicago des années 20.
Oui, la comparaison est osée, Fabienne, je vous l'accorde, mais vous allez voir que ça rappelle bien l'époque de la prohibition aux États-Unis. Hier, les services secrets talibans ont annoncé avoir arrêté 3 hommes et saisi de l'alcool de contrebande dans les rues de la capitale afghane. 3000 litres que des agents ont ensuite détruits. On peut assister à la scène dans une vidéo publiée par la Direction Générale du Renseignement, les services spéciaux de l'Émirat islamique. On y voit des agents en uniforme masqués vidant de grands barils bleus remplis d'alcool dans un canal. Ou comment mettre en scène la sévérité des talibans face à la consommation d'alcool dans le pays. Celui qui parle ici est un savant religieux proche des talibans. Dieu a dit que l'alcool était mauvais, lance-t-il. C'est une abomination. Les musulmans doivent sérieusement s'en abstenir. Et le prophète a maudit tous ceux qui sont impliqués dans sa fabrication et sa distribution. Toutes les mauvaises choses, conclut-il, en Afghanistan sont causées par l'alcool. Voilà, la prohibition de l'alcool n'est pas nouveau. En Afghanistan, c'était déjà le cas sous le précédent pouvoir. Mais là, la répression s'accentue. On n'est pas encore dans les incorruptibles avec Elliot Ness, mais ça y ressemble.
Et nous partons pour la Nouvelle-Zélande à la rencontre d'une journaliste assez singulière.
Elle s'appelle Aurini Kaipara. Elle présente l'équivalent de notre JT de 20h.
A homicide investigation is
à l'oreille, rien de bien original, mais
si ce n'est l'accent néo-zélandais,
si l'accent, exactement, effectivement, pas toujours compréhensible, mais à l'image, c'est autre chose, Fabienne. La particularité d'Aurini Kaipara, c'est qu'elle porte un tatouage maori au menton, très visible donc, et c'est la première fois dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande qu'une journaliste tatouée ainsi assure une édition aussi regardée, aussi populaire. Cette femme de 37 ans a découvert ses origines maori il y a 3 ans en faisant un test ADN. Depuis, en hommage à ses origines, elle a choisi de faire ce tatouage au menton, un moko kawae, un rituel très répandu chez les femmes maoris qui marque le passage de l'enfance à l'âge adulte. Un symbole évidemment très fort pour la reconnaissance de la communauté maori, comme une brèche dans un plafond de verre, dit-elle. Les maoris qui ont commencé à s'installer en Nouvelle-Zélande à partir du 8e siècle, ils seraient aujourd'hui 850 000 dans le pays, 17% de la population, mais la très grande majorité connaît encore évidemment la pauvreté, le mal logement, la santé précaire, 6 ans d'espérance de vie de moins chez les maoris que chez les néo-zélandais d'origine européenne.
Allez voir en tout cas sur le site d'Un jour dans le monde le tatouage très étonnant, le menton, les lèvres aussi de cette jeune femme en cliquant sous les radars. Merci beaucoup Sébastien, je vous laisse partir avec Alani Suddenly sur France Inter.
Suddenly I woke by a vision of your blue eyes so lovely. And suddenly you're back with me over hills and valleys deep. You find me. Oh, the nights seem so long and the days carry on in spite of how I long for you. And the stars up above are invited to I feel the worst. Have we been doomed to die? Oh, and so suddenly have I been cursed to live alone this life I am waiting. All on my own I'm waiting for you to come home.
Et suddenly, à la direction les États-Unis, comme chaque lundi.
France Inter, un jour dans le monde.
Et l'Amérique de Biden, c'est un coup d'œil dans le rétro. Cette semaine, retour sur la fin chaotique du mandat de Trump, Sébastien Paour, la défaite toujours contestée, l'assaut du Capitole, le fameux 6 janvier. Toute la presse américaine ne parle déjà que de cet anniversaire.
Oui, les télés, les journaux, tout le monde, ou presque, y va de son édition spéciale pour le 6 janvier, un an après.
Exclusive on the anniversary of January 6th, the police, the lawmakers, and the leaders fighting for accountability. An unprecedented gathering. Jake Tapper and Anderson Cooper host, live from the Capitol, January 6th, one year later, Thursday at 8.
Voilà, ici ouais. C'est CNN qui annonce une émission en direct du Capitole jeudi soir. Plusieurs moments sont aussi prévus au siège du Congrès, des échanges avec des historiens, avec les élus qui étaient là il y a un an, une veillée de prière aussi en fin d'après-midi. Joe Biden et Kamala Harris doivent prendre la parole également, tout comme Donald Trump qui annonce lui une conférence de presse depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride.
Un Trump d'ailleurs, Sébastien, qui est de plus en plus mis en cause par l'enquête sur le 6 janvier.
Oui, par la commission spéciale mise en place par la Chambre des représentants à majorité démocrate. Le camp républicain ne collabore pas franchement, il ne fournit pas les documents qu'elle lui demande. Les anciens de l'équipe Trump ne viennent pas aux convocations, mais plus de 300 personnes ont tout de même été auditionnées. Et les premières conclusions sont accablantes pour l'ancien président. Voilà ce qu'en disait Liz Cheney hier sur ABC. C'est l'une des rares représentantes républicaines à faire partie de cette commission.
La commission dispose maintenant d'un témoignage de première main selon lequel il était assis dans la salle à manger à côté du bureau ovale et regardait l'attaque à la télévision pendant que l'assaut sur le Capitole avait lieu. Les membres de son équipe le suppliaient d'aller à la télévision pour dire aux gens d'arrêter. Nous savons que le chef de la minorité républicaine, Kevin McCarthy, l'a supplié de le faire. Nous savons que des membres de sa famille, sa fille, nous avons un témoignage de première main que sa fille, Ivanka, est rentrée au moins deux fois pour lui demander d'arrêter cette violence.
Voilà, plus de 700 personnes au total. Ouais, un témoignage très fort de Liz Cheney. 700 personnes arrêtées depuis un an en lien avec cet assaut sur le Capitole. Les sondages réalisés ces derniers jours, notamment par CBS et par le Washington Post, montrent que le 6 janvier a encore un peu plus abîmé et divisé la société américaine. Deux tiers des sondés estiment que la démocratie américaine est toujours aussi menacée. Et un Américain sur trois considère que la force peut parfois être justifiée pour défendre le résultat d'une élection. D'ailleurs, le compte Twitter personnel d'une autre élue républicaine, plus trumpiste, elle, nettement plus trumpiste, Marjorie Taylor Greene, a été suspendue ce week-end. Elle passe son temps, elle, à contester la victoire de Biden à la présidentielle. Et puis samedi, elle écrivait, sans aucune preuve sur un autre sujet, qu'il y a un nombre extrêmement élevé de morts dus au vaccin contre le Covid.
Alors, heureusement, Sébastien, il y a plus léger et plus joli aussi dans l'actu américaine.
Ouais, c'est la belle histoire du moment, les Américains adorent ça. C'est celle de cette enseignante de CE2. On est à l'école privée Sainte-Trinité de Georgetown, c'est l'un des quartiers de Washington ici. Elle s'appelle Kathleen Fitzpatrick, et le jour des vacances de Noël, elle a promis un chocolat chaud à tous ses élèves si elle réussissait un panier de basket de l'autre bout du terrain. Alors la voilà donc dans la cour de récréation avec les enfants. On la voit se préparer à tirer sur la vidéo qui a été mise en ligne par l'école. Les élèves jouent autour d'elle. Ils la regardent, elle lance le ballon qui tombe. Magie de Noël.
J'adore.
En plein milieu du panier, vous entendez les enfants. Ils se mettent à crier tous, à sauter autour d'elle. Ils la félicitent, leur maîtresse. Ils sont comme des fous. Ça fait plaisir à voir. C'est assez marrant. Et ça ne s'arrête pas là parce que la vidéo, évidemment, a été rapidement assez virale. Et Madame Fitzpatrick a été invitée à tenter de nouveau sa chance. Cette fois, c'était vendredi à la mi-temps du match de NBA entre les Washington Wizards et les Cleveland Cavaliers. C'est ici à Washington. Sauf que le miracle n'a pas eu lieu de nouveau. Elle a raté les trois essais de panier. cette fois depuis le milieu du terrain, mais elle a tout de même gagné un bon d'achat de $250 dans une chaîne de donuts, et c'est pour toute sa classe. C'est un peu l'école des fans ici, tout le monde a gagné. Il faut préciser qu'elle était joueuse de basket en universitaire et qu'elle avait un record de tirs à 3 points dans son lycée, 245 réussis sur une seule année.
Alors voilà, ceci explique cela. En tout cas, allez la voir cette vidéo, on va la mettre sur le site, parce que vraiment, ils sont tellement mignons les gamins, ils courent comme des fous, complètement fous. Sébastien, merci beaucoup, on se retrouvera sûrement avant la fin de la semaine d'ailleurs pour parler de cette fameuse anniversaire du 6 janvier. Allez, à très vite.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après et Jean-Marc Four. Jean-Marc, la France ne sera pas la seule à voter cette année, dites-moi. De nombreuses élections sont prévues en 2022 et vous voulez attirer notre attention sur quatre d'entre elles, au Brésil, en Hongrie, en Inde, aux États-Unis, avec un point commun à chaque fois, un test pour le populisme illibéral, et c'est votre monde d'après.
Oui, je sais, ça paraît dingue pour un Français, mais nous ne sommes pas seuls au centre du monde. Alors on va commencer par le Brésil avec le scrutin le plus attendu de l'année, en tout cas le plus électrique, le plus tendu, le plus polarisé. Présidentiel prévu le 2 octobre pour le premier tour, le 30 octobre pour le second, et le géant d'Amérique du Sud se dirige vers un face-à-face entre deux hommes que tout oppose, deux visions antagonistes de la société. D'un côté, l'actuel président d'extrême droite Jair Bolsonaro, 66 ans, d'ailleurs hospitalisé depuis ce matin pour une nouvelle occlusion intestinale, on en parlait dans le journal de 18h. Bolsonaro, l'obscurantiste et sa gestion calamiteuse de la pandémie, officiellement plus de 620 000 morts au Brésil, le bilan réel est sans doute beaucoup plus lourd. Bolsonaro, soutenu par l'armée, les milieux financiers, l'agro-business, l'électorat évangélique. Face à lui, selon toute probabilité, l'icône de la gauche brésilienne, l'ancien syndicaliste et ancien président de 2003 à 2010, Lula, 76 ans, blanchi par la justice. Même si les enquêtes d'opinion sont d'une fiabilité relative au Brésil, Lula part grand favori, entre 10 et 20 points d'avance pour l'instant dans les sondages, et aucun troisième larron ne parvient à s'imposer. 2022 peut donc voir la fin de Bolsonaro, le Trump des tropiques. Et soit dit en passant, en cas de victoire de Lula, la gauche sud-américaine peut espérer un grand chelem, puisque la Colombie en mai prochain, après le Chili, le Pérou et l'Argentine depuis 15 mois, peut également basculer à gauche.
Autre dirigeant populiste en situation délicate, c'est le Hongrois Orban.
Alors ça va venir plus vite, l'élection législative prévue en avril, la date précise reste incertaine, et là ça s'annonce serré. Orban, au pouvoir depuis 2010, réélu en 2014 et 2018, brille un quatrième mandat consécutif avec son parti, le Fidesz. Il est l'incarnation, on le sait, en Europe de la droite illibérale qui conteste l'état de droit. Mais il voit cette fois se dresser en face un candidat crédible, Peter Markizai, 49 ans, appuyé par 6 partis différents de la gauche à la droite. Markizai, c'est le retour d'une droite classique à l'est de l'Europe, à la fois catholique, conservatrice et pro-européenne et respectueuse des droits des minorités. Cela dit, Orban reste légèrement favori, 48-46 pour l'instant dans les enquêtes d'opinion. Le mode de scrutin hongrois amplifie à le moindre écart de façon spectaculaire à l'avantage du parti sorti en tête. Orban, on le sait, contrôle la plupart des médias et la coalition de l'opposition est quand même un patchwork un peu improbable. Mais le suspense est quand même total, le scrutin s'annonce passionnant, au même moment que l'élection en France, donc en avril, une coïncidence saisissante, toute l'Europe va regarder.
Alors, il y a aussi deux géants qui vont également voter cette année, c'est l'Inde et les États-Unis.
Des élections régionales ou partielles, mais avec un impact national. Alors l'Inde d'abord, là encore en mars et en avril, vous savez ça dure toujours plusieurs semaines en Inde, élection dans la province la plus peuplée du pays, l'Uttar Pradesh au nord, 200 millions d'habitants. C'est un test majeur pour le pouvoir nationaliste hindouiste de Narendra Modi et son parti, le BJP. Il jette toutes ses forces dans la bataille pour soutenir son candidat, le moine radical Yogi Adityanath, possible successeur de Modi d'ailleurs. En face, Akhilesh Yadav essaie de regrouper les différents partis d'opposition, c'est un défi, et de tirer profit de la colère des agriculteurs et du ralentissement économique. Alors tous ces noms ne vous disent sans doute rien, mais ce scrutin dans l'Uttar Pradesh dessine l'avenir de la plus grande démocratie du monde. Et bon, en parlant justement de plus grande démocratie, finissons donc par celle qui en revendique le titre. Les États-Unis se dirigent vers des élections de mi-mandat le 8 novembre qui pourraient déjà sonner la fin des ambitions de Joe Biden et des démocrates, empêtrés dans l'inflation, la pandémie, les tiraillements internes. Le parti républicain partira grand favori pour reprendre la majorité à la Chambre. Et Trump continue d'y tirer les ficelles, vous en parliez à l'instant avec Sébastien Paour. Les deux tiers des électeurs de Trump pensent d'ailleurs toujours que la victoire leur a été volée il y a 14 mois, alors que Biden l'a emporté avec 7 millions de voix d'avance. Bref, même si Bolsonaro est susceptible d'être renvoyé dans ses pénates, le populisme de façon générale ne sera pas enterré en 2022 et le trumpisme en particulier pourrait bien frapper de nouveau à la porte.
Le Monde d'après, signé par Jean-Marc Four tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain, le 18-20 continue avec le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Bonne soirée avec nous sur Inter.